La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Au menu de notre club cet après-midi, les 25 ans du SIDAction, la réouverture du Muséum National d'Histoire Naturelle de Bordeaux et un projet de science participative autour des ondes gravitationnelles. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
Il y a du méthane qui s'échappe de Mars et c'est aujourd'hui la une de la science.
Oui Mathieu, ces émanations sont confirmées cette fois par la sonde Mars Express. Et comme à chaque fois, les scientifiques aimeraient bien y voir des traces de vie. On discute avec l'un d'entre eux dans un instant.
Et c'est Fanny Bouillon qui est aux commandes de ce club préparé aujourd'hui par Lucie Sarfati et Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Et je salue les invités du club. Florence Thune, la directrice générale du SIDAction. Nathalie Mémoire, la directrice du Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux. Et Sarah Antier, qui est astrophysicienne. Et Sophie Bécherel, bonjour à toutes les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Florence Thune, 25 ans pour le SIDAction cette année. Un week-end bien sûr qui lui est consacré. Un sondage également qui vient de sortir. 23% des jeunes s'estiment mal informés. Selon IFOP Bilindi, c'est en nette augmentation visiblement depuis 2009. Alors que les jeunes sont surinformés avec les réseaux sociaux. Comment on explique que la communication autour du SIDA n'arrive pas à passer ?
Alors les jeunes sont les premiers à nous dire que justement l'information ne leur arrive pas toujours de manière pertinente via les réseaux sociaux, via Internet, et font plutôt confiance finalement au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation nationale pour les informer. Or on sait que ces fameuses 3 heures d'éducation à la sexualité que devrait recevoir chaque élève dans le secondaire n'est pas malheureusement réalisée. Donc on est vraiment là de nouveau, hein, année après année, sur le fait de devoir répéter que ces heures devraient être effectivement réaliser.
Oui, le problème, il est vraiment là, selon vous ?
Il est là en premier, parce qu'effectivement, l'importance de pouvoir parler de sexualité de manière générale et pas que du VIH se retrouve à ce moment-là auprès des élèves dans les lycées. Et on doit vraiment repartir de ces fondements, de pouvoir parler de sexualité, de VIH et aussi de manière générale de la santé sexuelle.
Mmh. Donc il faut retravailler encore hein, ces messages à la fois d'information et de prévention aussi.
Oui, tout à fait. Et après, les compléter par des campagnes public ou plus ciblé en fonction des jeunes et de leur orientation sexuelle notamment.
Alors à partir d'aujourd'hui, vendredi, c'est donc le week-end du SIDAction avec un appel aux dons pendant tout le week-end, par téléphone, en appelant le 110 oui. Ou en allant sur SIDAction.org.
Tout à fait. Hein, oui,
c'est ce qu'on retient évidemment
oui,
pour
oui, 110
ceux
et SIDAction.org.
Oui, qui souhaitent aider la recherche. Sophie Bécherel, votre invitée cette semaine dans le club.
Oui, pas un coup de cœur mais un coup de chapeau pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux qui après 10 ans de fermeture vient de rouvrir au public. C'est l'un des plus anciens musées scientifiques de France. Nathalie Mémoire, vous en êtes la directrice, vous êtes avec nous. Pourquoi une si longue pause vis-à-vis de votre public ?
Oui, 10 ans, c'est long quand même.
En réalité, c'est le temps moyen pour la rénovation d'un musée. Si vous faites le tour des musées et muséums récemment rénovés, c'est 10 ans, 12 ans. C'est très long parce qu'il y a un travail sur le chantier des collections et puis un bâtiment historique, un bâtiment classé. Donc on ne veut pas rénover tout à fait comme on voudrait. Et donc le challenge remporté par l'architecte, c'est de résoudre un peu cette quadrature du cercle, de pouvoir préserver les collections, de pouvoir, du point de vue du développement durable, maîtriser les consommations d'énergie. Puisque pour les collections, on doit réguler le climat, et puis prévoir une scénographie qui soit totalement en prise avec les préoccupations citoyennes d'aujourd'hui concernant l'environnement et donnant une accessibilité au public qui est attendue.
Voilà, donc tous à Bordeaux, on va découvrir
la nouvelle version du
muséum. Sarah Antier, vous êtes astrophysicienne et vous êtes à l'origine du projet Grand Mât, pour lequel vous allez faire appel aux astronomes amateurs autour des ondes gravitationnelles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ?
Eh bien, en fait, c'est vraiment une aventure participative qui regroupe des professionnels, donc des physiciens des ondes gravitationnelles, des astrophysiciens, des amateurs, et on a besoin aussi de la participation des astronomes amateurs autour de ce projet pour détecter une signature lumineuse d'un événement d'ondes gravitationnelles.
Et ça, je peux le faire avec ma petite lunette chez moi, alors, ou pas ?
Oui, donc en fait, pour les astronomes amateurs qui nous écoutent, on parle d'un système en éclat pour mesurer l'éclat des astres. Donc par exemple, les astres brillants, c'est plutôt une magnitude de 0. Ici, ce sont des astres plutôt faibles, en magnitude 17. Et donc, il suffit d'avoir un télescope d'une vingtaine de centimètres et donc de participer à l'aventure avec nous.
Bon, on va rentrer dans les détails, hein. Vous allez nous expliquer cela dans un instant. Vous êtes les invités du club cet après-midi, réalisé par Fanny Boyon.
Pèlerin n'a pas halluciné à propos du sol de Mars. On observe une grande cellule unique, inerte, indéniablement biologique. Et comme pour tous les organismes sur Terre, on a ici ce qui semble être le noyau et le cytoplasme. On a sous les yeux la première preuve irréfutable de l'existence d'une vie extraterrestre.
Extrait du film Life, origine inconnue et cette fois-ci la recherche de vie sur Mars. On en parle avec le méthane, une vieille saga qui excite d'ailleurs les spécialistes de la planète rouge depuis un moment et c'est aujourd'hui à la une de la science, Axel.
Et oui Mathieu, les premières suspicions de la présence de méthane à la surface de Mars datent de 1969 et si depuis les débats sur l'origine de ces émissions supposées de gaz n'ont jamais vraiment cessé, c'est qu'elles pourraient être d'origine microbienne. Hier, l'ESA a publié une nouvelle confirmation faite par la sonde Mars Express. L'étau se resserre et nous en discutons aujourd'hui avec Hervé Cottin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrochimiste, professeur à l'université Paris-Est-Créteil et président de la Société française d'exobiologie. L'exobiologie, c'est la recherche de la vie ailleurs que sur la Terre. Et c'est bien cette vie-là qui passionne dans ces histoires de détection de méthane parce que sans cette composante, le résultat serait passé complètement inaperçu en fait.
Oui, effectivement. Donc l'histoire du méthane, elle remonte à bien longtemps sur Mars avec des détections qui ont été avérées, discutées, remises en question. Et en fait, si on regarde un peu l'ère moderne de l'exploration martienne, on arrive en 2003 avec une détection depuis la Terre de méthane qui a été très vite, rapidement controversée parce qu'on détecte des quantités qui sont extrêmement faibles. Et donc on est à la toute limite des capacités de détection des instruments. Mmh. Et un an après, en 2004, une sonde européenne de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, Mars Express, annonce aussi une détection à des niveaux extrêmement faibles. Donc il y a eu une bonne dizaine d'années de controverses jusqu'à ce que Curiosity, le robot, le gros robot, le rover de la NASA, avec un instrument sur place, cette fois-ci, on n'est plus en orbite, annonce aussi une détection. Alors, à nouveau à la limite de la détection, qui a été à nouveau débattue, controversée par la communauté scientifique.
Alors pourquoi cette détection, cette double détection publiée hier, est plus sérieuse et plus commentée que les précédentes, on peut le dire comme ça ?
Alors, elle est plus sérieuse parce que pour la première fois, en fait, on combine une observation au sol, on a Curiosity. Alors ces résultats ont déjà été publiés. Curiosity voit du méthane et là ce qui a été publié cette semaine, c'est que depuis l'orbite Mars Express en prenant des données au même endroit, c'est-à-dire le cratère Gale, le même jour, voit aussi du méthane dans des quantités qui sont tout à fait similaires. Alors ça reste très faible, le signal est pas extraordinaire en termes de qualité de détection, mais on a cette combinaison qui est une première concernant Mars et le méthane.
Alors, il n'y a pas que la vie dans les scénarios qui pourraient expliquer ce méthane. Quelles sont les différentes possibilités qui sont étudiées ?
Alors, c'est vrai que ce qui excite beaucoup et ce qui attire l'attention des médias, et sans doute on en parle aujourd'hui pour cette raison, c'est parce que sur Terre, une partie du méthane est d'origine biologique. Ce sont des bactéries par leur fonctionnement, relarguent du méthane. Même les vaches, quand elles ruminent, produisent du méthane. Et une partie du méthane terrestre est produite par une activité biologique. Mais c'est pas la seule. C'est pas la seule manière. On sait, et c'est le cas aussi sur Terre, qu'il y a des réactions de géochimie, certaines qu'on appelle la serpentinisation. C'est le résultat de l'action d'eau liquide avec certains types de roches, qui va produire, par une succession d'étapes, à la formation de méthane. Donc on peut expliquer le méthane à la fois par une source biologique et par une source géologique.
Alors si jamais c'est biologique, si c'est des microbes qui produisent ce méthane, pourquoi Curiosity, qui a les roues dessus, ne les verrait pas ?
Alors, l'idée, c'est que...
Ce serait d'ailleurs énorme si c'était le cas, quand même.
Oui, hein.
Oui, alors...
On serait pas là tranquille en train d'en parler, on serait surexcité, non ?
Oui, certainement. Alors, l'idée, c'est que, alors, déjà, comme je l'ai dit, le méthane n'est absolument pas une signature de vie.
Oui.
Et si on prend ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, en science, on parle de quelque chose qui est le plus probable, une source géologique...
Et plus probable.
Et... Bah, Alors c'est peut-être moins excitant, mais il y a rien qui manque sur Mars pour que ce processus géologique puisse se produire. Mais comme on peut pas exclure la source biologique. Bah, voilà, on peut en parler. Alors, l'idée, ça serait pas forcément que les bactéries soient là, même maintenant, juste en dessous, mais que, au fil des années, une activité biologique ait conduit à une accumulation géologique ou biologique de méthane dans des glaces qui seraient sous la surface de Mars. Et puis, bah, pour des raisons saisonnières, augmentation de la température, ces glaces pourraient être déstabilisées et relarguer des petites bouffées de méthane dans des régions très proches du cratère Gale.
Alors, sur Terre, pour des composés comme le carbone, on sait dire s'il est d'origine biologique ou non grâce à des analyses isotopiques, c'est comme ça qu'on les appelle. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire avec ce méthane martien ?
Alors, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de faire ces mesures isotopiques. Mais effectivement, sur Terre, on peut distinguer si le méthane est d'origine biologique ou géologique par une signature isotopique, un isotope de carbone 12 par rapport à l'isotope de carbone 13, les rapports entre les deux, ça permet d'être une signature. Alors après, qu'est-ce qui ferait que sur Mars, s'il y avait de la vie, l'activité biologique conduirait au même déséquilibre? On n'en sait rien. En tout cas, ça veut dire qu'il faut y aller avec d'autres moyens, d'autres instruments. Et là, on sait qu'il y a un endroit à quelques kilomètres à l'est de l'endroit où se trouve Curiosity, c'est l'un des intérêts de ce papier, où on estime être la source probable de ce méthane.
Donc, on va y aller. Et la saga n'est pas terminée, du coup.
La saga n'est sans doute pas terminée, effectivement.
Merci Hervé Cottin.
Je disais, c'est comme ça les sagas, ça ne s'arrête jamais.
Absolument. Et dans un instant, c'est le club de la tête au carré.
Tu aimerais te perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours, ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes.
Chaque pluie que tu traverses.
Apache, c'était Les Innocents.
La tête au carré, le club.
Voilà, dans le club cet après-midi, les 25 ans du SIDAction, c'est ce week-end, la réouverture du Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux et un projet de science participative autour des ondes gravitationnelles. On va commencer avec vous, Florence Thune. Vous êtes donc la directrice générale du SIDAction, 25e édition cette année, avec donc un week-end d'appel aux dons. On va écouter un petit spot justement pour ces 25 ans.
Dans la lutte contre le virus du sida, la recherche et l'accompagnement ont fait tellement de progrès qu'on finit par penser que le virus du sida ne touche plus personne. Qu'il a disparu. Mais malheureusement, en 2019, le virus du sida est toujours là. Il infecte encore 6000 personnes par an en France. Et l'oublier le rend encore plus dangereux. Alors n'oublions pas que le virus du sida est toujours là. N'oublions pas de donner au 110 ou sur sidaction.org.
Voilà, Florence Thune, il faut rappeler que le virus du sida est toujours une réalité aujourd'hui. Hein. Cette maladie chronique reste grave et finalement un peu oubliée.
Oui, tout à fait. Le VIH devient invisible aux yeux du grand public et de manière générale. Alors on pourrait dire qu'au départ c'est une bonne nouvelle puisque finalement dans les années 80-90, les gens mouraient. Donc c'est pour ça que le VIH a beaucoup marqué, le sida a beaucoup marqué à l'époque les esprits. Aujourd'hui, grâce au traitement, grâce aux progrès qui ont été réalisés, les personnes vont mieux. Et donc on voit moins effectivement... Les personnes mourir, et tant mieux, les gens vieillissent avec le VIH, hein, ce qui est important. Néanmoins, le VIH devient invisible, il n'y a plus pratiquement aucune campagne sur cette question, et on arrive à des moments où on croit que finalement le VIH n'existe plus, ou en tout cas qu'il peut y avoir des traitements, ou que les gens ne sont plus contaminés aujourd'hui. Ouais. Et on voit encore, hein, les derniers chiffres donnés par Santé publique France montrent que 6400 personnes ont découvert leur séropositivité en 2017, puisque ce sont les derniers chiffres qui sont disponibles, avec... Par exemple, un taux intéressant, on a 22% de ces découvertes qui concernent des personnes de plus de 50 ans. On parle souvent des jeunes, mais c'est aussi important de rappeler qu'aujourd'hui, le VIH contamine à n'importe quel âge.
Il y a une recrudescence d'ailleurs des cas chez les quinquagénaires, tout simplement.
Oui, ouais. Oui, depuis quelques
Pourquoi,
années.
Pourquoi? Comment on l'explique?
Je pense que, un peu comme les jeunes et les moins jeunes, hein, on oublie que le VIH est toujours présent et on se dit, voilà, on connaît effectivement souvent une personne qui peut être atteinte d'un cancer autour de nous, on ne voit plus les personnes séropositives. Et de fait, on se considère que ce n'est plus un problème. Et ce qui est intéressant, c'est que cette génération qui a plus de 50 ans a pourtant
connu
les années 80-90.
C'est terrible. Ouais.
Et c'est très bien que pas de vaccin, il n'y a pas de traitement définitif et que donc ce virus se promène toujours.
Sophie Becherel.
Ce que l'on dit, c'est que ces quinquagénaires, en fait, en redémarrant parfois une nouvelle vie amoureuse, se retrouvent confrontés au virus. C'est ça, surtout, qui explique.
Tout à fait. On est vraiment face à ce cas où les personnes se disent, bon, le préservatif, allez, je connais personne autour de moi. Enfin bon, il n'y a pas de risque particulier. Et puis on est, je pense aussi, toujours sur des préjugés de qui on a en face de nous et on se dit que cette personne-là, peut-être qu'elle n'est pas concernée, parce que on reste toujours sur ces préjugés que ça ne toucherait qu'une certaine catégorie de population.
Donc on a oublié la gravité de la maladie et puis son aspect invalidant aussi et parfois excluant dans la société. Il y a plein de gens aussi qui sont séropositifs et qui sont confrontés aussi à cette discrimination.
Tout à fait. On dit souvent que la science finalement a beaucoup plus progressé que les mentalités, puisqu'aujourd'hui, une personne qui découvre sa séropositivité a une espérance égale à une personne séronégative, une espérance de vie, pardon, égale à une personne séronégative. Donc ça, c'est un vrai progrès.
Bien sûr.
Ça continue effectivement d'être un traitement au quotidien. Et ce à quoi, alors, on voit deux soucis, c'est à la fois les personnes qui vieillissent avec le VIH, donc c'est une bonne nouvelle, mais qui se trouvent confrontées de plus en plus à des maladies cardiovasculaires, soit dues longues années de traitement ou à l'inflammation persistante, hein, dans le corps, et de fait aussi à beaucoup de situations de discrimination et que l'on vit au quotidien.
Ouais. Alors ça, justement, aujourd'hui, la science a un recul qu'on n'avait pas évidemment au tout début des traitements, puis les traitements eux-mêmes ont beaucoup évolué. Comment est-ce que justement une personne vieillit en ayant pris pendant plusieurs décennies justement ces traitements?
Alors ce qu'on peut voir avec le recul qu'on commence effectivement à avoir, c'est que un certain nombre de personnes développent certaines pathologies qui sont les mêmes que chez les personnes séronégatives, mais plus tôt. Donc il y a voilà, les premières études montrent qu'il y aurait un vieillissement accéléré chez les personnes, donc de nouveau, hein, qui ont été contaminées il y a très longtemps, avec des maladies cardiovasculaires, diabète, différentes pathologies qui sont développées à partir de 50 ou 60 ans. Et on se dit qu'effectivement, hein, 30 ans de traitement au quotidien joue aussi, et notamment pour les personnes qui ont pris les premiers traitements dans les années 90, avec ces trithérapies qui au départ étaient très très fortes en termes d'effets secondaires.
Est-ce que c'est facile aujourd'hui, puisqu'on est à l'occasion de ce week-end du SIDAction, dans un appel aux dons, de mobiliser les Français autour du sida? Est-ce que vous sentez qu'il faut ramer quand même pour y aller un peu maintenant ou...
disons qu'il faut plus ramer, comme vous dites, pour obtenir la même chose. C'est-à-dire qu'on a des donateurs très fidèles, hein, qui sont toujours à nos côtés, des nouvelles personnes, hein, des nouveaux donateurs chaque année, mais on sent qu'il faut déployer plus de moyens chaque année pour avoir ces donateurs. Je pense que la lutte contre le sida n'est pas la seule cause. Il faut aussi mener plus d'efforts pour avoir des dons de manière générale.
Hein. Bien sûr.
Mais c'est vrai que la cause aussi joue, entre guillemets, en notre défaveur.
Oui. Alors, les chiffres, on l'entendait dans le petit spot tout à l'heure, 6400 personnes ont découvert cette année qu'elles étaient infectées par le VIH, des chiffres d'ailleurs de 2017. Oui. Pourquoi les chiffres ne baissent pas alors en réalité ?
Alors, on est à la fois face à une moindre utilisation du préservatif de manière générale, et en face de ça, une information insuffisante qui est encore faite sous les nouveaux modes de prévention, et notamment la question de la PrEP, hein, qui est ce traitement médicamenteux qui peut être pris avant les rapports sexuels, et qui est très fiable et qui permet aussi de se protéger. Ouais. Et là, on est vraiment un peu à la croisée des chemins où quelque part, jeunes et moins jeunes se disent le préservatif, voilà, on l'oublie ou on en a marre, enfin peu importe. Et cette information qui manque sur ce nouveau traitement, en tout cas ce traitement qui est utilisé en préventif et qui fonctionne très bien.
Ouais, alors du coup, ça a complètement changé aussi la sexualité au fond des personnes, hein, et leur appréhension du VIH, la PrEP.
Alors oui, avec les nouveaux traitements, avec les progrès, il y a deux choses qui changent. C'est à la fois pour les personnes séropositives elles-mêmes, hein, puisque quand elles sont sous traitement, le traitement leur permet d'avoir ce qu'on appelle une charge virale indétectable, donc une très très faible quantité de virus dans le sang. Et cet effet fait qu'on ne transmet plus le VIH aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est séropositif sous traitement, on n'a aucun risque de transmettre le virus à son partenaire sexuel, et même sans utiliser de préservatif. Donc ça, c'est un vrai progrès. Et donc ce qui a aussi révolutionné la sexualité des personnes concernées.
On va écouter un sujet sur l'autotest, parce que j'aimerais bien vous entendre à ce sujet.
Baisser de 10% le nombre de personnes qui ignorent leur séropositivité sans passer par un médecin ou un labo, c'est désormais possible, grâce à cet autotest de dépistage du VIH, simple et rapide d'utilisation.
Donc je prends l'autopiqueur, je le place sur le bout de mon doigt, je vais prendre la seconde goutte de sang, il ne me reste plus qu'à percuter l'autotest à l'intérieur de la petite dosette.
Après 15 minutes, le résultat est lisible. Vendu sans ordonnance pour 25 à 30 euros, l'autotest est destiné aux adultes, mais aussi aux mineurs, sans accord parental. La fiabilité de l'autotest est de 99%.
Alors ça, c'est un sujet qui date de 2015 sur France 2. Les autotests, beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas leur existence.
Oui, tout à fait. Alors, on avait un petit souci avec ces autotests au départ, c'est qu'ils étaient un peu trop chers. On était entre 25 et 28 euros. Le prix a baissé parce qu'il y a plus de producteurs. De fait, on en parle en même temps, peu.
Est-ce que c'est fiable ou pas ?
Ces tests sont tout à fait fiables. Ouais.
Hein. On peut les avoir sans ordonnance ?
Tout à fait, oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a toujours une démarche, mais comme sur d'autres tests, d'aller en pharmacie, de dire bonjour, je voudrais un autotest, et parfois on peut hésiter. En revanche, on sait que c'est aussi une démarche d'aller vers le dépistage. On s'est dit aussi à apprendre qu'on est séropositif en étant chez soi tout seul avec son test. Certes, c'est un problème.
Bien sûr.
Mais ça veut dire que malgré tout, apprendre sa séropositivité de cette façon, c'est peut-être moins traumatisant qu'une femme enceinte qui l'apprend quand elle est enceinte, par exemple. Enfin, voilà, il faut aussi relativiser et se dire que c'est un outil de plus pour apprendre sa séropositivité. Et on est vraiment sur cet enjeu du dépistage aujourd'hui.
Est-ce que les médecins généralistes, d'ailleurs, parlent autant des risques liés à la contamination par le VIH ou pas ?
Je pense un peu moins, et c'est un chiffre qui nous inquiète et qui est en lien avec cela. Sur les 6400 personnes qui ont découvert leur séropositivité, on a 30% de personnes qui découvrent leur séropositivité au stade sida. C'est-à-dire qu'elles sont infectées depuis très très longtemps, elles arrivent au stade sida, et ça veut dire que pour certaines d'entre elles, elles ont développé un certain nombre de pathologies à côté desquelles, manifestement, un médecin est passé à côté en termes de proposition de tests de dépistage.
Sarah Antier, vous aviez une question pour Florence Thune.
Oui, je voulais savoir, là vous parlez du traitement qui est fait en France, mais est-ce que ce traitement, d'un point de vue mondial, est-ce que tout le monde peut prendre ce même traitement ?
Vous faites allusion à la PrEP, hein ?
Sur la PrEP
sur le traitement quand on est séropositif, est-ce qu'en France on a la chance d'avoir un système qui permet d'avoir ce traitement, mais d'un point de vue mondial peut-être tout le monde n'a pas accès.
De quoi on parle exactement, Florence ?
Alors là, si on parle des traitements pour les personnes qui sont déjà séropositives, effectivement, on est sur une très grande différence entre l'Afrique, entre le continent africain et le Nord. Hein. Il faut rappeler qu'il y a encore 1 million de personnes qui décèdent par an du SIDA, donc le traitement n'est pas effectivement disponible pour tous. Et quand je parlais tout à l'heure de la PrEP, qui est plutôt ce traitement préventif, il est encore moins accessible.
Françoise Barrécine aussi, d'ailleurs, prix Nobel de médecine, a récemment fait part de son inquiétude concernant justement les problèmes de résistance qui commencent à émerger, en particulier en Afrique.
Ils émergent déjà depuis quelques années. On avait déjà une étude en 2015 au Sénégal qui montrait que 64% des enfants de moins de 2 ans qui étaient sous traitement étaient en échec thérapeutique. Et parmi ces enfants, on avait déjà un tiers qui ne répondait plus aux traitements disponibles dans le pays. Et de fait, c'est lié notamment à la faible disponibilité des traitements. C'est-à-dire qu'on peut en France être résistant à un traitement, mais comme on a une gamme plus large, voilà, les gens sont mis sous un autre traitement. Et ces poches de résistance sont de plus en plus importantes.
Allez, une dernière question avec Sophie.
Sur la qualité de l'information, l'assurance maladie a mis en place tout un tas de dépistages du cancer colorectal, enfin on reçoit nos courriers, voire la santé bucco-dentaire. Est-ce qu'on peut imaginer, pour les adolescents, justement, une consultation chez un généraliste à un âge précis qui permettrait d'évoquer les MST, mais aussi le sida, etc. Est-ce qu'il y a des projets, des réflexions là-dessus ?
C'est une réflexion qui est plutôt menée auprès des médecins généralistes en disant pensez à parler déjà de sexualité.
Oui, mais les jeunes ne vont pas forcément chez le généraliste, ils sont pas malades.
Bien sûr, mais d'ailleurs, c'est la question qu'on s'est posée au moment de la prescription du préservatif sur ordonnance, en disant, bon, c'est un outil de plus, certes, mais on n'est pas sûr que, notamment, les jeunes vont aller chez leur médecin traitant pour parler de sexualité et donc de préservatif. De fait, on encourage plutôt, notamment, les acteurs externes qui vont faire de la prévention dans les lycées, de pouvoir guider les adolescents vers des centres appropriés, vers le planning familial, par exemple, ou le CRIPS, ou toutes les associations qui proposent ce type de dépistage et d'aller vers eux-mêmes le faire. Oui.
Allez, c'est le week-end du SIDAction. Appel aux dons, donc on aide aussi la recherche. C'est très très important, tout évidemment. C'est aujourd'hui jusqu'à dimanche et vous pouvez appeler le 110, numéro d'appel gratuit, ou aller sur sidaction.org. Florence Thune, vous restez avec nous. On part à Bordeaux pour la réouverture d'un musée.
And you will get what you get. And you make, and you pretend what you forget. You never take time, and you'll never take mine. But if you don't, you will be getting, you'll be getting again. If you don't, you will be getting, you'll be getting again. If you don't, you will be getting, you'll be getting again. Won't be on time. You cross the street, you got the feeling on me. You never listen to the reason, you just yell them to me. You never listen to time. You never build up the time. You get what you get. You never listen. The only time. And on the street they're all talking about the things you should listen. And on the news they're always excusing. And when you tell your friends what you think you have, you know there's nothing like time. It's time.
You Get, c'était Cat Power.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Sophie, vous nous emmenez à Bordeaux ce week-end.
Oui, au muséum de Bordeaux, donc sciences et nature. Alors, dans l'imaginaire collectif, un muséum, c'est quand même associé à une image assez surannée. On imagine le parquet qui craque, les très belles vitrines en bois, les animaux naturalisés. Le muséum de Bordeaux fait pas exception, on va dire, à la règle, sauf que là, après 10 ans, il va nous présenter un visage nouveau. Comment est-ce que l'on fait pour garder quand même ce petit côté qu'on aime bien d'un muséum tout en le modernisant? Bon, vous avez eu 10 ans pour le remettre aux normes, Nathalie Mémoire, mais vous aviez cette préoccupation de garder l'esprit muséum?
Alors, le challenge, c'était ça. C'était d'une part que ceux qui ont connu le muséum avant et des repères s'y retrouvent, et que tout le public qui était en attente véritablement de cette rénovation la trouve aussi. Donc il fallait absolument remettre le bâtiment aux normes de sécurité accessibilité, je vais dire ça c'est presque simple, faire en sorte que les collections soient dans de bonnes conditions de conservation. Les collections d'histoire naturelle, pendant longtemps on a pensé que on avait des espèces qui étaient présentées, puis s'il y avait un spécimen abîmé, on allait le remplacer. Aujourd'hui, quand même depuis quelques années, on a bien compris que ce patrimoine ne serait plus renouvelable aujourd'hui, puisque un certain nombre d'espèces sont définitivement éteintes, que d'autres sont extrêmement menacées, en danger critique. Et donc, c'est un patrimoine extrêmement précieux. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été compris de cette manière-là. Et d'autre part, en relation avec cela, eh bien, les préoccupations citoyennes d'aujourd'hui pour la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité, et le rôle de l'homme dans tout ça. Donc nous avons construit un nouveau parcours permanent en redistribuant complètement les collections autour d'un propos qui est la nature vue par les hommes, et la place de l'homme au sein de cette nature et de cette biodiversité.
Est-ce que ça signifie que les spécimens présentés ont changé considérablement ?
Surtout, ils ne disent pas la même chose. Dans les muséums, de manière générale, les collections ont été présentées, c'était le cas chez nous, uniquement suivant la logique de la classification zoologique. Donc on a complètement redistribué, rééclaté ces collections. Et donc ce parcours de la nature vue par les hommes commence par la diversité, l'étonnante diversité telle qu'on peut la voir, la diversité des couleurs dans la nature, des animaux, des végétaux, des minéraux, c'est dès le hall d'accueil. Ensuite, la diversité des tailles, les grands et les petits, le colibri et l'autruche, la musaraigne et l'éléphant, pour ne citer que cela. La diversité des enveloppes, ceux qui ont une surface, une peau rugueuse, piquante, poilue, velue, douce, lisse. Et puis on va monter dans les étages et dans l'escalier, on va découvrir un peu l'immersion sonore et visuelle dans la diversité des milieux. On traverse les milieux aquatiques, on va monter dans le milieu terrestre, le milieu aérien, et on va entrer dans ce qui est la galerie qui avait été aménagée au 19e siècle, dont on a conservé, restauré, entièrement réaménagé les belles vitrines murales. Donc ça, c'est le clin d'œil au passé, et avec au centre, une présentation complètement moderne, complètement rénovée. On a sur l'ensemble du bâtiment 22 bornes interactives tactiles, des bornes audio, on va avoir des banquettes, on peut s'asseoir au milieu des collections, on a les grands spécimens qui regardent les vitrines, le visiteur va s'asseoir au milieu, le visiteur qui représente lui-même l'espèce humaine au sein de l'ensemble des espèces.
Alors, j'ai dit une ânerie tout à l'heure en présentant le sujet, parce que j'ai parlé de muséum alors national d'histoire naturelle, donc pire que tout, parce que le terme d'histoire naturelle a disparu aussi. Pourquoi alors, ce choix alors?
On a rénové le nom avec la rénovation du bâtiment. En fait, le cabinet d'histoire naturelle de Bordeaux, vous voyez, je donne encore un autre nom, s'est créé en 1791 avec l'entrée de la première collection dans les fonds municipaux de la ville de Bordeaux. Donc il a été ouvert au public avec un enrichissement progressif des collections dès 1811, mais dans un autre bâtiment. La ville a acheté l'hôtel de l'île ferme, qui est cet hôtel particulier 18e superbe que nous occupons aujourd'hui, et les collections ont été transféré en 1862. Et à ce moment-là, le cabinet a pris le nom de Muséum d'Histoire Naturelle au 19e siècle. Et nous avons aujourd'hui voulu aussi rénover le nom, garder le nom de Muséum, qui est le repère, comme nos anciennes vitrines, mais le moderniser en précisant d'abord que c'est le Muséum de Bordeaux, et Science et Nature, qui est plus évocateur pour le public aujourd'hui.
Sarah Antier.
Oui, je voulais savoir, dans un monde connecté qui est le nôtre, la place du digital dans votre musée par rapport à ses collections anciennes et historiques.
Alors, donc, on a fait le choix d'avoir donc ces bornes tactiles qui permettent vraiment d'en savoir plus sur les collections, d'alléger les textes affichés. Donc, il y a une très très grande richesse d'informations dans ces bornes, richesse textuelle et iconographique. On a 1600 photos des espèces dans leur milieu naturel et un certain nombre d'informations que l'on va trouver en français, anglais, espagnol. On a aussi une fréquentation touristique qui s'est beaucoup accrue à Bordeaux. On a ces audios qui permettent de nous mettre dans l'ambiance, mais par exemple des voyages naturalistes. On a essayé que ce nouveau parcours prenne en compte la dimension historique, c'est-à-dire pourquoi on a à Bordeaux des collections qui viennent de toutes les parties du monde, en relation avec l'activité commerciale du port de Bordeaux. Donc ça, on va le raconter. Et puis, on va avoir, pour répondre encore à votre question, une sorte d'animation multimédia interactive qui va donner à comprendre et à découvrir la salle avec un show d'une quinzaine de minutes. On va voir toute la salle qui s'éteint et on a des écrans qui descendent, on a quelques images, un peu de commentaires et puis les vitrines qui vont s'allumer au fur et à mesure pour raconter cette histoire. Donc cette histoire, c'est d'abord découvrir le monde et on a redistribué les collections par continent, tels qu'on est allé les chercher, tels qu'on les a ramenés à Bordeaux. Ensuite, découvrir le temps, avec la prise en compte, bien sûr, des fossiles, compris au départ comme des curiosités de la nature, puis comme les témoignages d'espèces disparues.
Muséum de Bordeaux, quelle place pour la biodiversité régionale, voire locale ?
Alors, c'est dans un autre espace.
Mais vous lui consacrez une place.
On lui consacre une place. On a une salle qui est dans le plateau du semi-permanent. Et donc, la première thématique, c'est le littoral aquitain.
Avec un phoque qui vient du littoral aquitain, c'est ça ?
Oui. Oui, qui a été collecté, donc que j'ai pu récupérer au mois de février de l'année dernière et qui est venu enrichir.
Qui est parti chez le taxidermiste et revenu.
Voilà, tout à fait, et qui a enrichi la présentation. Il n'était pas prévu au départ et ici intégré parfaitement.
Est-ce que vous avez des espèces emblématiques ? Quand on est un petit enfant, les parents vous emmènent dans ce genre de musée scientifique et ça reste gravé dans la mémoire, notamment, je pense, à cause de la taille immense de certains spécimens. Vous avez les vôtres ?
Oui, alors on a dans le hall d'accueil une éléphante d'Asie naturalisée qui accueille le public depuis 1892. Donc elle s'appelle Miss Fanny, donc c'est une éléphante de ménagerie, d'où son petit nom, donc qui est morte sur la place des Quinconces, la grande place de Bordeaux, qui a été acquise par le musée, naturalisée aussitôt, donc à l'époque dans les ateliers du musée, et qui accueille le public depuis le mois de mai 1892. Alors elle était dans le hall d'accueil du musée en bas de l'escalier. Le hall d'accueil s'est déplacé et agrandi, mais Miss Fanny y est à nouveau et accueille le public bordelais et étranger.
Vous avez évoqué la disparition des espèces et la nécessité de les préserver. Est-ce que ce long chantier s'est doublé d'un grand travail sur les collections ? Et est-ce qu'il arrive que l'on jette des animaux trop abîmés ou qu'on a en 15 exemplaires ?
Ah non, les collections des musées, des muséums comme des autres musées sont incessibles, sont inaliénables et imprescriptibles.
Vous les récupérez à Lyon pour votre salon, Sophie ?
Non, c'est pas possible. On a restauré plus de 2000 spécimens.
Pour le
projet. Et on a aussi beaucoup de nouvelles collections.
Vous avez un atelier de taxidermie
au sein du musée depuis 1997, on n'a pas renouvelé l'atelier au moment du départ à la retraite de la personne qui le tenait. Et on fait travailler, au contraire, 5 ou 6 taxidermistes différents qui sont spécialistes des différents types d'animaux, de spécialités, de taille, etc.
Florence Thune a une question.
Oui, est-ce que, comme pour les autres musées, on peut avoir des échanges avec d'autres musées à l'international ou
Oui, bien sûr. Des échanges d'expositions, des échanges de spécimens aussi. On se prête, bien entendu, sur des thématiques particulières.
Et vous avez des chercheurs qui travaillent aussi sur les lieux ?
Alors, à la différence du Muséum National ou de très grosses institutions, on ne peut pas avoir ce genre de personnel à demeure. Par contre, on a des collaborateurs, et un en particulier qui, lui, collabore avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et participe à des missions régulièrement. Et puis, on accueille les chercheurs, on documente les collections, c'est-à-dire que c'est un travail de recherche-documentation sur les spécimens, documentation historique, réidentification, actualisation de la nomenclature scientifique, bien entendu, et mise à disposition des
des collègues.
Si votre message, c'est la place de l'homme dans la nature, dans la biodiversité, vous voulez qu'on ressorte en se disant quoi ?
Alors, la suite du parcours permanent, une fois qu'on a parlé donc de cet aspect de diversité géographique, découvrir le temps, c'est la classification du vivant. Qu'est-ce que la classification du vivant,
même,
du point de vue historique, hein, depuis l'Antiquité, Linné, Lamarck, Darwin, comment on classe aujourd'hui, suivant le seul critère des relations de parenté entre espèces, hein, la classification phylogénétique, et l'homme, évidemment, fait partie de cet ensemble du vivant au sein des grands singes, des primates, des mammifères, etc. Donc on précise cet emboîtement, et puis on précise aussi que l'homme va s'être extrait de la nature et a agi sur la nature par la domestication. Donc on a un ensemble de vitrines sur cette thématique et ensuite sur l'exploitation de la nature, l'exploitation des ressources minérales, végétales et animales, les espèces menacées d'extinction, les espèces disparues, et nous terminons sur l'ouverture sur les différentes mesures législatives au niveau tant international que local de protection des espèces. Et nous interrogeons le visiteur grâce à ces bornes interactive, on demande l'avis du public. Il peut renseigner, comparer avec l'avis des autres visiteurs et des personnalités dont on donne un certain nombre de témoignages et de points de vue.
Voilà, donc la réouverture du Muséum de Bordeaux, Sciences et Nature, je l'ai bien dit.
Parfait.
C'est ça, c'est le bon intitulé. Très bien, je vais l'apprendre par cœur. Voilà, et c'est ouvert donc depuis une
dimanche.
Semaine, c'est ça, depuis
dimanche.
La semaine dernière. Allez, on parle dans un instant d'une activité astronomique à destination des amateurs.
Comme l'hiver, tu travailles pour une société de 100 000 actionnaires. Ton nom ici n'existe pas, tu n'es qu'un numéro. Pour être sûr de te garder, on te donne ce qu'il faut, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tout appartient à la société anonyme. Afin d'augmenter leur standing, un jour la société a fait construire près du building une belle cité. On est en qualité d'autorité, voici l'appartement. Pour le paiement, tout est réglé, on vous aidera maintenant, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non. Pas un seul centime, t'appartiens à la société anonyme. Pour les week-ends, on est gentil, on te prête une auto. Elle est graissée, elle est lavée, une 23 chevaux. Ta petite amie te voit de loin quand tu viens la chercher. Car sur les portes, on lit très bien le nom de la société, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Après 30 ans d'un dur labeur courbé par l'ambition, si même tu finis directeur à monsieur au grand nom, que feras-tu quand t'arriveras le jour de l'addition? Lorsque les gens près de Saint-Pierre ensemble te diront, rien n'est à toi. Tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non, non, tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme. Rien n'est à toi, non, tu ne vaux pas un seul centime, tu t'appartiens à la société anonyme.
Ça nous fait remonter en 1966, cette affaire Société Anonyme Eddy Mitchell.
Le Club sur France Inter.
Sarah Antier, vous êtes notre dernière invitée, astrophysicienne dans ce laboratoire Astroparticules et Cosmologie à Paris 7. À quoi consacrez-vous vos recherches exactement ?
Donc je consacre mes recherches à l'astronomie multimessager. Donc l'astronomie multimessager...
Oui, s'il vous plaît.
Oui. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'astronomie classique, donc c'est-à-dire observer les astres avec des télescopes. Mais ici, on utilise aussi l'information de nouveaux messagers, comme les ondes gravitationnelles. Et elles nous donnent des informations, par exemple, sur la cinématique des objets en mouvement, etc. Donc l'idée, c'est de combiner le signal lumineux et d'ondes gravitationnelles pour en savoir plus sur les événements de l'univers violent.
Au moment de la découverte, enfin de la révélation de la découverte des ondes, hein, on a parlé d'une nouvelle astronomie, mais c'est vraiment ça dont il s'agit et dont il faut qu'on soit conscient finalement. Hein.
C'est ça, donc on a eu en août 2017 la chance de découvrir un premier événement multimessager avec les ondes gravitationnelles, c'est-à-dire on a détecté la coalescence lorsque deux étoiles à neutrons collisionnaient et on a découvert le signal d'ondes gravitationnelles et aussi la signature du signal lumineux. Et donc là, on n'a eu qu'un seul événement. Donc avec un seul événement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tout compris et il va falloir en détecter de nombreux autres cas. Et ça tombe bien puisque la prochaine campagne d'observation de ces événements démarre cette semaine.
Ah oui, alors ça c'est vraiment l'actualité autour des ondes gravitationnelles.
Exactement.
Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe justement, parce que là c'est une montée en puissance finalement. Hein.
Exactement, donc depuis un an, la collaboration LIGO-Virgo, qui est une collaboration américaine et européenne, a travaillé avec acharnement pour avoir des instruments beaucoup plus sensibles que la dernière campagne. Et donc on a commencé cette nouvelle campagne mardi. Et donc là on attend des événements d'ondes gravitationnelles. Je peux en recevoir un à tout moment sur mon téléphone.
Ouais. Donc ça va vraiment augmenter la capacité de détection.
Oui, grosso modo la sensibilité a augmenté d'un facteur 2. Et on s'attend donc à avoir jusqu'à 10 événements de collision d'étoiles à neutrons comparé à 1 lors de la campagne précédente.
On va juste écouter un petit document de 2016 avec justement l'annonce de la détection des ondes gravitationnelles.
Mesdames et messieurs, nous avons détecté les ondes gravitationnelles. Ça y est, c'est fait. Je suis si heureux de pouvoir vous dire ça. Ces ondes gravitationnelles ont été émises par deux trous noirs entrant en collision pour n'en former qu'un seul il y a 1,3 milliard d'années.
Voilà, c'était David Reitz, le directeur de LIGO, hein, donc en 2016 pour cette annonce. Alors, on a bien compris hein, dans le grand public que c'était très important, mais véritablement, c'est une nouvelle page de l'astronomie qui s'ouvre avec ces ondes gravitationnelles. Hein.
Exactement, et en France, on a plusieurs projets qui vont monter en puissance au-delà de 2020. Je pense au projet SKA en radio, il y a aussi le projet CTA en très haute énergie. On a aussi un satellite franco-chinois dans lequel je travaille, SVOM, qui va aussi être dédié. C'est un observatoire qui est dédié à cette astronomie multimessager. Donc vraiment, la France va être porteur au-delà de 2020 et c'est pour ça qu'on est très motivés pour cette campagne.
Sophie Becherel, une question.
La toute première onde gravitationnelle, c'était le détecteur américain, LIGO. Et je sais que les Virgo, qui se trouvent en Italie, où les Français collaborent beaucoup, se disaient flûte, ça aurait pu être nous, parce que vraiment, ça s'est joué à très peu de choses. Est-ce que Virgo risque de nous apporter beaucoup plus d'informations sur les ondes gravitationnelles, d'en détecter beaucoup plus que LIGO aux États-Unis? Donc, c'est une compétition ou une émulation ou une complémentarité?
Il faut savoir que la collaboration LIGO et Virgo travaille de concert. On partage nos données en commun. On a des analyses.
C'est ce qui a été annoncé cette semaine, particulièrement en tout cas.
Exactement. Hein. Ouais. C'est vrai que l'instrument Virgo qui est en Italie est deux fois moins sensible que les instruments aux États-Unis. Mais ce qui compte, c'est que l'instrument Virgo nous apporte une information supplémentaire pour mieux localiser l'événement. Lorsqu'on détecte une onde gravitationnelle, on ne sait pas trop où ça se trouve. Dans le ciel, voilà. Il y a une zone de recherche très très importante. Et donc pour trouver cette signature lumineuse, c'est tout un casse-tête. D'où la participation des astronomes amateurs pour nous aider.
Et c'est ce projet Grandmar, hein ?
Exactement.
C'est ça, Sarah Antier. Alors je rappelle quand même que vous êtes lauréate de la bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science et initiatrice de ce projet Grandmar, qui veut dire quoi alors exactement ? C'est pas juste grand-maman ?
Hein ? Non, c'est un acronyme où on a voulu mettre le mot rapide et le mot multi-messenger addict, donc en lien avec l'astronomie multimessager. Donc Grandma a vu le jour il y a à peu près 11 mois, où il y a des physiciens des ondes gravitationnelles et des astronomes. Et donc l'idée, c'est d'avoir ces deux experts pour pouvoir combiner cette information lumineuse et aussi ondes gravitationnelles. Et donc c'est vraiment ce projet qui a vu le jour avec les astrophysiciens et les physiciens des ondes gravitationnelles. Donc en fait, l'alerte peut arriver n'importe quand, parce que on observe des événements transitoires qui peuvent arriver n'importe quand. Et donc, il faut essayer de détecter le plus rapidement possible ce signal lumineux, et la zone de recherche sur le ciel est très importante. Alors, comment on fait ? Donc évidemment, si on n'a qu'un seul télescope, tantôt il observe de jour, quand c'est jour, on peut rien observer. Donc c'est là que nous est venue l'idée, on s'est dit, tiens, on va faire un réseau de télescopes pour pouvoir toujours observer de nuit avec un télescope.
Donc ça veut dire que où que l'on soit dans le monde, finalement, il y aura toujours un télescope braqué au bon endroit pour ne pas manquer précisément l'événement.
Exactement, donc on a des télescopes de la Chine vers l'Espagne en passant par la France et donc on couvre...
Vous avez bien couvert tout ce que vous souhaitiez.
Oui.
Et donc c'est 24-24 finalement.
Presque 24-24. Ouais. On a aussi des collaborateurs aux États-Unis, donc c'est presque 24-24. Il faut savoir qu'il y a 60 scientifiques dans le projet Grandmas et 6 laboratoires en France. Donc c'est vraiment un gros projet. On va tous dans la même direction pour détecter ce signal lumineux.
Ouais. Nathalie Mémoire, vous avez une question, je crois.
Oui, les astronomes amateurs que vous espérez toucher, vous les estimez à combien de personnes? Vous avez une idée?
C'est dans le monde entier d'ailleurs, c'est un appel vraiment
international. Donc on a des partenaires qui veulent aussi rejoindre le projet Grandmas puisqu'on a plusieurs collaborateurs de partout dans le monde. En ce qui concerne en France, il y a à peu près, je pense, une centaine d'astronomes amateurs. Donc bien évidemment, en fait, la zone de recherche, pour avoir une photo simultanée de la zone de recherche, il faut à peu près une centaine de télescopes.
Ouais.
Donc bien évidemment, on espère atteindre ce chiffre. Mais plus il y a d'astronomes amateurs impliqués qui observent au même moment, plus on a la chance de pouvoir détecter... nous, en France, le signal lumineux associé aux événements donc gravitationnels.
Sophie.
Donc le principe, on reçoit une alerte et vite, il faut essayer de trouver, et donc dans les ondes visibles, c'est ça, d'où vient cette onde gravitationnelle, c'est ça, dans le ciel?
Exactement, donc en fait, il y a un site où vous pouvez accéder, où vous rentrez vos caractéristiques du télescope.
Votre télescope.
On donne une liste de galaxies qui pourraient être à l'origine... qui pourrait être la galaxie
dans
à l'origine.
Plusieurs directions quand même.
Voilà, c'est ça. Donc chacun a sa galaxie à observer.
Ah oui.
Et en fait, il peut y en avoir un des astronomes amateurs qui a observé la bonne galaxie
et qui
pourrait être le gagnant pour.
Et on gagne quoi d'ailleurs?
Une
onde gravitationnelle en bocal.
Venir parler chez vous.
En tout cas, on serait très heureux.
C'est une certaine fierté de trouver la galaxie qui a hébergé cet événement. Donc.
Alors il y a un site pour ça, pour tous les amateurs qui ont un télescope chez eux et qui souhaitent participer à ce projet. Il faut aller sur Grandmas et ensuite ça
grandmas.lal.in2p3.fr.
Oui, donc on va le mettre sur le site de la Tête au Carré, je pense. Ce sera plus simple, évidemment. Donc on s'inscrit et ensuite on peut, avec son télescope de 20 cm.
C'est ça, 20 cm ou plus, il y a des astronomes amateurs, il ne faut pas négliger qui ont vraiment des grandes compétences et des très beaux télescopes.
C'est ça, oui. Il faut quand même déjà s'y connaître un petit peu. Et alors, j'ai lu que vous cherchiez surtout à traquer un signal lumineux en particulier, le kilonova, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que, donc, imaginons qu'on a deux étoiles à neutrons qui collisionnent, donc ça émet des ondes gravitationnelles, mais on peut voir aussi un signal lumineux qui est dû à quoi? En partie, c'est dû au chauffage radioactif d'éléments lourds qui ont été synthétisés après cette collision. Et c'est ça qu'on appelle la kilonova. Donc, comme je l'ai dit, ce signal est assez faible, mais avec une magnitude 17-18, mais avec un télescope de 20 cm. Moyennant un temps de pause assez... pour atteindre cette magnitude, on peut y arriver.
Ouais. Il faut le capturer, ce phénomène lumineux, c'est ça? Il est assez furtif?
Oui, c'est-à-dire que au bout de deux nuits, c'est beaucoup plus difficile de le détecter. Mais vraiment, on n'a pas pu voir les premiers instants. Et vraiment, c'est ces premiers instants qui nous intéressent pour avoir des retombées scientifiques.
Bon, alors, mais tous à vos télescopes, si vous avez envie d'aider la recherche autour des ondes gravitationnelles. Mais oui, c'est vrai. Et le site, évidemment, est sur la Tête au Carré. Madame Becherel, l'agenda du week-end, s'il vous plaît.
Alors, je vous propose d'aller dans un autre muséum.
Non, mais les vacances, vous faites de la concurrence au Bordelais.
Les vacances de Pâques, de printemps, arrivent et le Muséum National d'Histoire Naturelle, celui de Paris, propose sa grande exposition de 2019 qui a commencé ce mardi, Océan, une plongée insolite.
Oui.
Et donc, on a ressorti pour l'occasion, c'est pareil, des spécimens tout à fait exceptionnels, le calamar géant, le sélacanthe ou le régalec qui a été restauré. Vous savez, le régalec, c'est un poisson en forme de serpent très très long, un peu géant et qui vit dans les grandes profondeurs. Et donc cette exposition, plus que de nous sensibiliser au message actuel qui est le mauvais état de l'océan, nous invite à mieux connaître toute la diversité, la biodiversité de l'océan. C'est donc jusqu'au 5 janvier 2020. Toujours dans la capitale, toujours pour ses vacances de printemps, la Cité des sciences et de l'industrie propose sa nouvelle exposition permanente, Robot. Alors, vous savez, du robot ménager qui aspire ou vous fait la pâtisserie, aux humanoïdes qui bientôt se promèneront avec nous quand nous aurons 100 ans et plus de petits-enfants pour s'occuper de nous. Voilà, vous saurez tout sur ces machines, les moteurs, comment elles fonctionnent. Et puis surtout, on est amené à réfléchir sur la place à donner à ces robots, leur statut et le monde qui se prépare devant nous avec eux. Voilà, la semaine prochaine, enfin, au Théâtre Montfort, l'intégrale des cartographies de Frédéric Ferrer, ce géographe que nous avions reçu ici au Club de la Tête au Carré. Auteur, metteur en scène et acteur, il construit depuis 2008 un atlas de l'Anthropocène. C'est tout un cycle de conférences théâtrales, un mi-chemin entre les arts et les connaissances scientifiques. Il y a donc 6 conférences. Il parle du terrain et puis il nous livre l'état des connaissances et des réflexions. Je vous en cite deux. Mm-hmm. À la recherche des canards perdus, par exemple, qui s'interroge sur ce que sont devenus ces petits canards jaunes en plastique de la NASA qu'elle avait lâchés en 2008 pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique dans l'Arctique. Et puis, les Vikings et le satellite qui, elle, s'intéresse à l'époque où le Groenland, le Greenland en anglais, était vert.
C'est
voilà.
Vrai.
Voilà, c'est du 10 infos. Au 20 avril, 6 spectacles différents au Théâtre Montfort.
C'est sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup à toutes. Passez un très bon week-end. À bientôt.
Merci.
Ainsi s'achève justement notre club aujourd'hui. Merci à Pierre-Yves de Rolin qui était à la technique. Et lundi, nous parlerons des 30 ans du web avec quelques-uns de ses pionniers.